Décryptualité, semaine 16. Salut Manu.
Salut Mag.
Salut Luc.
Et bien sommaire.
Une jolie semaine.
Alors commençons par Silicon. Open source Grafana change à son tour de licence par Clément Bohic.
Alors oui, il y a eu plusieurs sujets dans les semaines passées sur des sociétés qui changent la licence de leur logiciel parce qu'ils en ont marre que les GAFAM les utilisent et ne reversent pas ou ne contribuent pas au développement initial. Donc il y a eu deux cas où ils ont transformé les licences et les ont passées de libre à propriétaire. On est un peu embêté. Et là, ils sont passés de libre à libre, mais une licence qui a des conditions d'usage, le copyleft. Et donc on est plutôt content parce que c'est une évolution intéressante. Mais je pense que ce sera un sujet des prochaines semaines. On va en reparler de tout ça.
Informaticnews.fr, programmation, pourquoi tout le monde devrait s'y mettre, par Sébastien Blanc.
Oui, eh bien oui, on devrait tous se mettre à la programmation, bien sûr, c'est utile, ça aide. Et puis forcément, il faut faire du logiciel libre parce que ça aide aussi. Donc là aussi, c'est un sujet de fond.
ZDNet France, vidéo Ingenuity volée sur Mars grâce au logiciel libre par Stephen J. Vaughan Nichols.
Donc en gros, on en a déjà parlé, la NASA aime le logiciel libre, fait du logiciel libre. Et si vous voulez étudier et apprendre à programmer, vous pouvez vous baser là-dessus pour travailler.
Le monde informatique, API Java, ce qu'il faut retenir du procès Google versus Oracle par Matt Hazay.
Donc là, il y a eu une décision qui a favorisé Google contre Oracle. Donc ils reviennent sur le sujet, parce que c'est un sujet important. Donc en gros, il y avait des librairies et elles étaient bloquées d'usage selon Oracle. Eh bien non, on peut les utiliser. C'est plutôt bon pour le logiciel et le logiciel libre notamment.
Voilà, il précise aussi que la Cour suprême américaine ne s'est pas trop mouillée non plus en prenant sa décision. D'un point de vue juridique, ils ont fait le strict minimum.
Ils auraient pu aller plus loin, effectivement, sur le droit d'auteur. Là, ils ont juste parlé du fair use, le droit d'usage, qui est un truc américain spécifique.
France Inter, carnet inter-département du 19 avril par Philippe Bertrand.
Donc, c'est une discussion sur l'indépendance, les logiciels libres et tout ce qui va autour. Donc, allez jeter une oreille, parce que effectivement, c'est en audio.
Et ce soir, on va parler de...
Je sais pas, moi.
Allez, on va parler d'article de ZDNet France. L'université du Minnesota bannie du développement du noyau Linux par Stephen J. Vaughan Nichols.
C'est lui qui les a bannis, un journaliste? Non, c'est ça. Non, pas du tout. Une nouvelle un peu rigolote, mais qui ouvre des discussions. Donc, c'est quoi l'histoire?
Oui, il y a un bannissement d'une université entière... Et on leur dit, non, vous ne pouvez plus contribuer au logiciel libre qui est Linux, le noyau. Donc un logiciel, un des plus importants au monde. Il y a des milliers de développeurs qui travaillent dessus. Donc c'est quelque chose de vraiment considérable. Et bien là, non, c'est toute l'université qui a été virée.
Alors toute l'université, mais ce n'est pas à cause de toute l'université. C'est à cause de certains chercheurs et surtout un prof et ses élèves qui ont fait, on va dire, des propositions pour l'amélioration du noyau, mais qui sont plus des tests et des correctifs qui ne corrigent rien que de véritables propositions qui améliorent les choses.
Donc en gros, ils ont fait des tests en disant « Bah tiens, si on essayait de saboter un peu Linux pour voir si le système de gestion et de sécurité que ça fonctionne. » Donc c'est quelque chose qui n'est pas complètement délirant dans le milieu informatique, mais quand on le fait en général, on s'organise secrètement, une personne dans une organisation va aller demander à des gens de le faire, on sait qu'ils le font. Là, ils ont pris l'initiative d'aller mettre leur gros doigt parce qu'on est trop malin. On va venir foutre un peu le bordel là-dedans pour voir si ça marche vraiment, en fait, tous les systèmes de vérification, contrôle, etc.
Et ils ne l'ont pas fait qu'une fois. Une fois, à la rigueur, c'est pardonnable. Là,
voilà.
Non.
Même pas. Enfin, ça se discute. Non seulement ils ne l'ont pas fait qu'une fois, mais en plus de ça, ils ont un peu joué au con quand on leur a demandé des comptes. Ils ont fait « Nous, non, 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 pas du tout. »
Alors, les termes utilisés sont intéressants. On parle de « patch hypocrite » ou « malveillant ». Donc hypocrite parce qu'effectivement, la volonté qui est derrière, ce n'est pas d'améliorer, c'est plutôt de tester. Et se faire tester dans la vie de tous les jours, on n'aime pas forcément ça. Voilà, si quelqu'un vient vous voir et vous fait des propositions hypocrites juste pour voir comment vous réagissez, ce n'est pas forcément agréable. Alors la personne qui a réagi, ce n'est pas Linus Torvald.
Pour une fois, non, c'est Croix Hartmann.
Et un des mainteneurs officiels d'une des branches de développement, si j'ai bien compris la chose, parce qu'effectivement, Linus Torvald, il ne s'occupe pas de tout ce qui se passe. Il a des lieutenants, des délégués qui vont s'occuper de certaines branches. En général, ils suivent des numéros de version.
Alors, la raison pour laquelle ils ont banni toute l'université et pas uniquement les développeurs, c'est qu'ils ont demandé des comptes à l'université en disant « Mais vous validez ce que ces gens-là font? Vous allez faire quelque chose contre eux ?» Et l'université a dit « on ne sait pas ». Ils ont dit « bon, bah, c'est comme ça, on vire tout le monde ». Alors moi, cette affaire m'a fait un peu rigoler, parce que ça m'a rappelé une vieille histoire que j'ai probablement peut-être déjà racontée dans le podcast, mais bon...
La répétition, c'est la base de la pédagogie.
Au début des années 2000, je contribuais régulièrement à Wikipédia. Il y avait un espace de discussion qui existe sans doute encore, hein, qui s'appelait le bistrot. Et il y a quelqu'un qui arrive super mécontent en disant « il y a des enfoirés qui sabotent ma page depuis 2 heures, là, je galère, ils reviennent, ils foutent la merde dans les pages, je suis obligé de corriger, ils insistent, etc. » Et il s'avère que c'est un chercheur en sciences de l'information et de la communication, et que maintenant il veut discuter, en disant qu'il a fait ça pour tester la façon dont Wikipédia réagissait au vandalisme. Et sur ce, l'universitaire s'exprime sur le bistrot et dit « Coucou, je suis là, c'est moi, effectivement, j'ai tout vandalisé pour, scientifiquement comprendre comment Wikipédia ça marche. Donc maintenant qu'on a mené l'expérience, discutons pour voir comment vous avez réagi. » Et tout le monde est fou furieux en disant « Mais d'un point de vue scientifique, ça n'a aucune valeur. » Enfin, les gens qui contribuent à Wikipédia ont souvent un bagage universitaire assez important. Et puis, c'est quoi ces conneries? Je veux dire, on respecte le travail des gens. Et le gars commence à prendre tout le monde de haut en disant « Oh, mais c'est bon, faites pas vos chochottes, tout ça. Hein. Voilà, moi, je suis un universitaire, c'est de la recherche. » Et on discute. Dis-moi, je suis pour la recherche. Du coup, je propose que, pour que la recherche soit complète, on applique nos procédures jusqu'au bout, parce que sinon, évidemment, c'est incomplet. Et la procédure consiste à émettre une plainte officielle auprès du président de l'université en disant que des gens de chez lui foutent la merde dans Wikipédia. Et une fois qu'on a fait ça, là, ok, on discute. Et là, l'universitaire, il a fait « Ah ouais, vous êtes pas rigolo quand même !» Et puis il est parti. Voilà.
Ah non, c'est pas drôle, hein. Et effectivement, il a vandalisé le travail d'humain. Parce qu'à un moment donné, il n'y a pas que des procédures automatiques et techniques, il y a des humains. Et même si les contributions hypocrites sont chopées, sont attrapées, bloquées et contrecarrées, donc c'est très bien, ils ont validé que, on va dire, le système fonctionne, mais ça n'empêche, non, ils ont vandalisé du travail humain.
Non seulement ils ont vandalisé, mais ils ont fait perdre un temps incroyable aux personnes qui ont dû aller contrôler leurs propositions, qui se sont rendues compte que ça ne servait à rien, ainsi de suite. C'est une perte de temps qui n'aurait pas dû avoir lieu.
Mais, et c'est ça que je trouve intéressant dans le sujet, c'est que c'est quelque chose dont on a déjà parlé dans le passé, qui est important dans l'informatique, c'est qu'il est facile de faire des tests, il est facile de valider, de vérifier, d'aller regarder. Et ça, c'est ce que font, ou en tout cas, c'est comme ça qu'on considère souvent les hackers. C'est que ce sont des gens qui aiment bien bidouiller, tester, essayer. Et donc, ils vont regarder s'il y a moyen d'accéder à des serveurs, si on peut, une fois qu'on a accédé au serveur, faire certaines choses, jusqu'à quel point c'est facile et jusqu'à quel point les vulnérabilités sont là. Et donc, on appelle ça souvent des white hat ou des black hat. Donc, des gens qui...
Chapeau blanc, chapeau noir.
Exactement. Donc, des hackers bienveillants ou malveillants, parce que derrière, soit ils le font juste pour le fun et pour aider ceux qui sont en train de tester, soit au contraire, ils veulent le faire pour des avantages personnels, ils veulent attaquer, vendre les attaques, peut-être détourner des serveurs. Et donc là, on voit une distinction assez manichéenne entre les chapeaux blancs et les chapeaux noirs. On remarque, aux États-Unis, chapeau blanc, chapeau noir, va peut-être falloir changer la terminologie. Mais,
ah bah oui.
Parenthèse. Et donc là, ce sujet-là, il n'est pas nouveau du tout, parce que même les white hats se font attaquer en justice. Et effectivement, avec les mêmes arguments, non, vous ne pouvez pas tester comme ça, venu de nulle part, c'est très compliqué parce que vous allez peut-être saccager du travail, prendre des risques. Peut-être que si vous testez un hôpital et que vous validez ou pas sa sécurité, peut-être que l'hôpital, vous allez le faire tomber quoi, d'un point de vue informatique. Mmh. Il y a des vies qui peuvent derrière en résulter.
Oui, il y a un célèbre hacker français qui a été condamné parce qu'il avait... réussi à rentrer sur des serveurs qui n'étaient pas sécurisés, hein, donc techniquement, c'était pas compliqué. Mais la justice a estimé que comme il savait qu'il n'avait pas à être là, et que pourtant il était resté, qu'il avait exploré, alors il était coupable, et qu'il aurait dû sortir immédiatement, et ensuite informer les gens que leur serveur était à poil sur Internet.
Le sujet est infini, parce qu'il y a aussi des cas où on veut que les hackers, et les gentils hackers, interviennent et participent à découvrir les failles, les remonter, et aider à les patcher. Et donc ça, c'est plutôt bien. Il y a plein de gens qui font ça. Il y a des laboratoires entiers qui sont montés là-dessus. Et parfois même, on les paye en achetant les vulnérabilités qu'ils ont découvertes. Donc ça, c'est un vrai business model aujourd'hui. Et il y a des millions de dollars qui peuvent être échangés sur ce sujet-là et qui peuvent aider globalement la sécurité sur Internet.
Alors effectivement, il y a une histoire là qui traîne depuis longtemps, qui s'est soldée il n'y a pas très longtemps, qui était aux États-Unis. Il y a eu un conflit entre le FBI et Apple. Puisqu'il y avait eu un attentat qui a fait 14 morts, et le terroriste qui était mort dans l'opération avait un iPhone, et le FBI voulait accéder au contenu de l'iPhone. Comme ils avaient fait une première tentative, ils avaient verrouillé l'appareil, Et ensuite, ils ont mis une pression énorme à Apple. Et comme on était quelques années après les révélations de Snowden et que la réputation des GAFAM était pas mal écornée, Apple a bloqué. Et ils étaient pris dans cette espèce de truc où tout le monde leur disait « Mais en fait, vous êtes des complices du terrorisme, voilà, les terroristes, les violeurs d'enfants, vous les défendez, vous les protégez. » Et eux étaient dans cette position un peu délicate de dire « Dès lors que le gouvernement veut des backdoors, parce que c'était un peu ce que demandait le FBI, dans tous les téléphones, on peut plus garantir rien à personne. » Et de fait, bon, il semblerait que les demandes du FBI étaient un petit peu dans ces directions-là. Et en fait, le FBI avait lâché le morceau parce qu'ils ont passé des appels d'offres pour que des gens leur vendent des failles sur les téléphones pour pouvoir justement regarder ce qu'il y avait dedans. Et donc, au final, ils ont laissé tomber le côté juridique où ça a duré, ils ont fait des conflits, des machins, pour pirater le matériel. L'estimation de l'achat de la faille qui avait permis de rentrer dans l'iPhone, c'était 900 000 dollars.
Et finalement, ça fait une super pub à Apple qui dit « Regardez, consommateur chéri, comment on vous protège face au FBI, quoi ».
Alors, partiellement, parce que finalement, la protection, elle a été percée, bon, avec de l'argent, pour mais trouver la faille.
Aucune sécurité choisie est éternelle, donc forcément, ça allait être percé.
Peut-être qu'ils disent non FBI, mais on rappelle quand même qu'il y a quand même la NSA, et qu'ils sont censés collaborer avec la NSA, qu'ils l'ont fait. Je me souviens qu'il y a des années de ça, j'avais lu un truc sur un petit logiciel qui s'appelle Dropout Jeep, qui était censé être dans les matos d'Apple. J'ai rarement lu des trucs là-dessus. Effectivement, c'est une idée qui circule pas mal chez certains geeks, y compris chez certains libristes, qui disent que Apple, c'est finalement la meilleure solution parce qu'ils collaborent pas et qu'ils ont décidé de protéger les données des utilisateurs. Ça les empêche pas non plus, dans leur Siri, leur système de commande vocale, d'enregistrer au pif des trucs parce que de toute façon, ça marche quand ça veut, et que des gens écoutent ça. Il y a eu un scandale il y a quelques temps.
Ils sont pas parfaits, ils le seront jamais.
Alors, autre sujet qui peut être posé par ce genre de situation. Imaginons un hacker qui s'aperçoit qu'il y a des attaques, par exemple des attaques sur des hôpitaux dont on parlait il y a quelques semaines. Imaginons qu'il puisse intervenir sur les infrastructures des hôpitaux. Il n'a pas le droit, mais il peut le faire et il pourrait intervenir vite et efficacement. S'il ne fait rien, il va y avoir des conséquences et lui, il serait peut-être en position de faire quelque chose. Est-ce qu'il doit le faire ?
Et alors là, je pense que c'est un problème philosophique assez profond. On pourrait parler des problèmes de train et de voies où il y a des gens, il faut détourner le train. Est-ce qu'on en tue 5 ou en sauvant un ? Enfin, c'est hyper risqué. Mais effectivement, oui. Ton action en tant que hacker porte plus de conséquences que ton inaction. Tu as plus de responsabilités dans ton action. Et donc, même si ton action est basée sur une bonne volonté, une volonté positive d'aider, mais que derrière, elle a des conséquences négatives, c'est une action. Et donc, tu es plus coupable à ce niveau-là.
Oui, mais là, c'est le cas inverse que nous pose Luc. Son inaction pourrait mettre des personnes en danger. Est-ce qu'il doit agir ou pas ?
Eh bien, l'inaction, d'un point de vue de ce qu'on voit dans les jugements moraux, est moins importante, a moins d'impact moral. Mais effectivement, tu as toujours
une question de droit et de procès. Toute la difficulté dans ce genre de situation, c'est que qu'est-ce qu'on est capable de prouver ? Surtout si on intervient et qu'au final ça se passe mal, on peut se retrouver en très mauvaise posture. Il y a un autre sujet qui a été débattu par le Conseil d'État récemment sur la rétention des données personnelles. Et dans toutes les discussions qu'ils ont eues, alors c'est assez pointu, assez compliqué, mais il y avait quand même cette idée que la rétention de données de connexion, etc., devait servir pour les cas de délinquance grave, sans définir ce que c'était, et donc proportionnée à la hauteur du danger. Et aujourd'hui, entre toutes les actions, la Russie sur Internet, éventuellement de la Chine, avec les conflits qui montent de plus en plus les pirates, etc., on peut imaginer qu'on se retrouve dans une situation où à un moment on dira « mais maintenant il faut arrêter avec cette séparation bien nette et il faut agir vite et bien et se donner les moyens de sauver la situation ».
Alors tu as raison, c'est ce que font les États-Unis en ce moment. Il y a les autorités qui ont décidé de corriger des backdoors qui sont répandus sur les serveurs Exchange de Microsoft. Alors, il me semble que c'est les serveurs Exchange de Microsoft, on ne rigole pas, c'est pas habituel tant que ça.
Il peut y en avoir partout.
Et effectivement, donc il y avait des grosses failles qui avaient été révélées. Microsoft a patché, donc a corrigé les failles, mais les corrections n'ont pas été répandues aussi vite qu'on le voudrait. Et puis il y avait déjà des serveurs qui avaient été compromis. Et donc je crois que c'est le FBI. Ils ont, un, été autorisés à accéder à ces serveurs, et deux, au nom des lois habituelles, ils ont juste pu lancer une petite commande pour récupérer l'objet du délit, donc les fichiers de hacking, et en gros, la commande les supprimait. Donc, ils ont réussi à faire ça légalement, mais ça reste quand même un petit peu gris de mon point de vue, c'est-à-dire qu'effectivement, ils ont fait une action qui, normalement, n'a pas trop de conséquences négatives, mais c'est toujours possible, on ne sait jamais. On vous laisse choisir philosophiquement. Est-ce que c'est un dilemme moral ? Vous, vous agissez ou vous n'agissez pas ? Et est-ce que vous pensez que les autorités doivent agir, ne pas agir ? Les hackers sur Internet doivent agir, ne pas agir ? C'est un dilemme moral qui me paraît mais fondamental.
Oui, moi je pense que c'est du cas par cas. On peut pas généraliser un truc pareil.
Alors si tu veux pas généraliser, on est foutu. Moi j'arrête. On se retrouve la semaine prochaine.
Allez, à la semaine prochaine.
Salut.